Et ce matin, l'invité du 8-30, Marion Lozac-Meur, bonjour.
Bonjour.
Procureur du parquet de Gap, nouvellement arrivé. Comment ça se passe ces premiers mois dans les Hautes-Alpes?
Eh bien écoutez, très bon, c'est globalement une première année. Alors pas tout à fait première année, parce que je suis arrivée au 1er décembre, donc c'est les 9 premiers mois. Mmh. 9 premiers mois extrêmement denses, très riches en apprentissage, mais globalement extrêmement positifs, dans un ressort absolument passionnant. Je crois pouvoir dire que c'est les 9 mois les plus dense professionnellement de ma vie et aussi les plus enrichissants.
Premier poste en tant que procureur.
Absolument.
Comment on l'appréhende ?
Alors, on s'y prépare. C'est pas des postes qu'on demande par hasard et c'est pas des postes qu'on donne par hasard. Généralement, et c'est ce que j'ai fait, on fait des formations un peu adaptées et puis parce qu'on passe un certain nombre d'entretiens, on réfléchit aussi à ce qu'est cette fonction, ce qu'on veut être comme procureur, ce qu'on pense être un bon procureur. Parce que là aussi, ça fait partie, ce qu'on passe un certain nombre d'entretiens, on se prépare aussi quand on a la chance d'être nommé au ressort où on va arriver. Mmh. Et donc, alors moi, je connaissais un peu les Hautes-Alpes parce que c'est une région que j'ai déjà beaucoup fréquentée, mais pas comme professionnelle. Et donc, avant d'arriver, c'est aussi un ressort que j'ai étudié, du point de vue des statistiques, du point de vue de sa géographie.
Ouais.
C'est sûr que c'est mieux d'arriver préparé, avec enthousiasme, parce que c'est un métier qui en demande.
Mmh. Qu'est-ce qu'un bon procureur ?
Alors, c'est une bonne question, puis je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, parce que je ne vais pas me targuer d'être une bonne procureure. Je fais de mon mieux, et j'espère l'être en tout cas, et je crois qu'il y a vraiment deux dimensions. Il y a la dimension en interne au sein du tribunal judiciaire, et là c'est un chef d'équipe, c'est un chef de juridiction avec le président, et puis c'est un magistrat qui dirige des enquêtes, qui est en interaction avec des enquêteurs, donc faut arriver à être optimum sur tous ces plans. Et puis le procureur, et c'est aussi l'un des aspects passionnants de ce métier, il existe aussi beaucoup à l'extérieur, en lien avec les partenaires institutionnels, la préfecture bien évidemment, police, gendarmerie, l'hôpital, toutes les administrations, les médias, les associations, et voilà, c'est aussi savoir incarner la justice à l'extérieur du palais.
Vous rejoignez un petit peu, j'allais dire, l'élan de Florent Cruy, votre prédécesseur, qui disait, moi, mon exercice, ça n'est pas d'être à mon bureau, c'est d'être ailleurs qu'à mon bureau.
Exactement. Moi, je pense que le bon procureur, et c'est pour ça que les journées sont bien remplies, il est autant présent dedans que dehors. Et il est effectivement souvent, dans le cadre des enquêtes judiciaires, mais aussi dans le cadre de plein de partenariats, il est le visage de la justice. Et donc, moi, c'est un aspect auquel je suis très attachée. Et effectivement, vous avez raison, mon prédécesseur avait bien installé la justice et le parquet de Gap dans l'espace médiatique et puis même dans l'espace public. Et je tiens à ce que ça reste comme ça.
Comment va la justice aujourd'hui? Alors, il y a quelques chiffres. Selon la Fondation IFRAP, en 2023, le ministère de la Justice était doté de 9 milliards 600 millions d'euros, un budget qui était en constante augmentation, mais parce qu'il y a toujours des mais, c'est quand même moins bien qu'en Allemagne. On dépense deux fois moins qu'en Allemagne pour le système judiciaire, 0,26% du PIB qui est consacré à la justice contre 0,3% en Europe. Et forcément, on est en train de parler d'économie. Et quand il y a des coupes, tout le monde trinque. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ?
Alors, c'est sûr qu'on craint toujours ce qu'on appelle les coups de rabot, mais moi je préfère toujours regarder le verre à moitié plein. On n'a jamais été autant mis en lumière, en tout cas d'un point de vue budgétaire, autant soutenu. Et c'est vrai que soit du point de vue budgétaire pur ou du point de vue des postes créés, on ne peut pas dire que la justice a été oubliée ces dernières années, bien au contraire.
Y compris dans les Hautes-Alpes ?
Alors, y compris dans les Hautes-Alpes, si ce n'est qu'il y a, notamment sur les créations de postes, un effet décalage, puisqu'entre le moment où on décide, le moment où c'est budgété, et puis le moment où concrètement les futurs magistrats, les futurs greffiers rentre à l'école de la magistrature et à l'école des greffes, puis en ressortent pour être opérationnels, il y a quelques années. Et donc ici à Gap, on a des créations de postes et puis surtout des postes qui sont comblés. Donc ça, on saura, par exemple, au parquet actuellement, on n'est que 3, mais c'est un parquet normalement à 4, et on saura à un moment donné à 4, mais eh bien, il faut que ces magistrats-là soient formés. Mmh. Donc, on est dans une phase de transition où on a des annonces, on a des espoirs, Et il y a un effet décalage. Alors, pour parler spécifiquement de GAP, il y a eu une fin d'année, une période en 2024 compliquée. Mm-hmm. Beaucoup de départs, mm-hmm. Pas remplacés, que ce soit au niveau des magistrats du siège ou au niveau du greffe. Mais on peut espérer une rentrée sous une tonalité différente. Il y a des juges qui ont été nommés. Je pense qu'on peut dire qu'on bénéficie du soutien de la Cour d'appel sur ce sujet-là. Et au niveau du greffe, on attend aussi des arrivées, on les espère, parce que il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut qu'il y ait des magistrats du siège, du parquet et du greffe pour fonctionner.
Vous allez fonctionner à régime plein, là ? Ou pas encore ?
Alors, pas encore tout à fait. Mmh. On a eu des arrivées de juges, là, au 2 septembre. On a encore une début octobre, une autre début décembre. Il manquera, je crois, à la clé, un juge. Et puis, là où le bas blesse encore, c'est au niveau des effectifs du greffe. Un effort énorme est fait par les greffiers présents et par les directeurs de greffe pour que le greffe puisse être à effectif plein. Et là, on sera bien.
Et vous serez bien. Et le délai de traitement des procédures pénales. Alors ça aussi, en France, c'est quand même beaucoup moins bien.
C'est
trois fois moins bien qu'en Allemagne.
Alors, à GAP, on est un peu une exception. C'est qu'on a des très bons délais de traitement au pénal.
C'est-à-dire
par exemple, quelqu'un qui est convoqué aujourd'hui pour être jugé devant le tribunal correctionnel, en fonction de la nature des dossiers, peut l'être en janvier ou peut l'être début décembre. Donc c'est plutôt des très bons délais. Parfois même, on va chercher un peu plus loin parce qu'on a besoin d'un peu plus de temps. Là, par exemple, si la personne est placée sous contrôle judiciaire, on va essayer que le contrôle judiciaire soit pas que de 2 mois. Mais on a ici, à GAP, de par la structure de notre délinquance aussi, et puis d'une réflexion entamée par mon prédécesseur et dans laquelle je me suis pleinement inscrite, on a des très bons délais de traitement et on arrive à être assez fin dans la façon dont on poursuit les gens en fonction du besoin de chaque dossier.
C'est-à-dire un peu plus de tolérance ?
Alors non, ça veut dire s'adapter. C'est-à-dire celui qui peut être jugé dans 4 mois, on va attendre 4 mois. Celui qui doit être jugé immédiatement, il va être jugé aujourd'hui. Celui qui doit être placé sous contrôle judiciaire parce qu'il faut par exemple organiser la séparation entre l'auteur et la victime, on va le placer sous contrôle judiciaire et on va le positionner dans 4, 5, 6 mois en fonction du dossier et du temps du contrôle judiciaire. On a ici, et j'ai travaillé dans des beaucoup plus grands tribunaux où les délais étaient très longs et puis une forme de lourdeur, on a ici une forme d'agilité parce qu'on est 3 ou 4 au parquet, parce qu'on maîtrise très bien nos délais, on maîtrise très bien nos audiences, et ça c'est vrai que c'est extrêmement agréable.
Vous parliez de la délinquance dans les Hautes-Alpes. Quel est le visage de la délinquance dans les Hautes-Alpes ? On suppose que ça n'est pas du tout le même que dans les Bouches-du-Rhône, par exemple. Pour autant, on parle toujours d'insécurité ici.
C'est sûr. Alors, de toute façon, l'insécurité et puis le ressenti, il est toujours à l'aune de l'endroit où on vit et de ses préoccupations quotidiennes. Et c'est important de prendre en compte les préoccupations des gens et le sentiment des gens. Ce qui est sûr, c'est que sur le ressort, on est traversé par des phénomènes de délinquance qui sont les mêmes que dans tous les endroits de France. La question des violences conjugales, par exemple. Il y a des dossiers de violences conjugales ici, bien évidemment. La question du trafic de stupéfiants, les délits routiers. Ça, c'est des choses qui existent partout. Et puis, on a ici quand même des spécificités qui sont à prendre en compte. Il y a une forte dimension de saisonnalité. On a une hausse de la délinquance l'hiver, notamment. Un peu moins l'été, parce que la population qui vient en vacances chez nous l'été, c'est plutôt une population familiale. L'hiver, c'est un peu plus festif, etc. Donc, il y a une délinquance corollaire. Et puis, une autre dimension qui, moi, m'a frappée depuis ma prise de poste, c'est quand même une accidentologie très forte, avec beaucoup d'accidents de voiture très meurtriers et la jeunesse alpine qui paye un très lourd tribut. Ouais. Et puis des accidents liés à notre environnement, des accidents de montagne, des accidents de pratiques sportives. Alors,
quelles seront vos priorités ?
D'évidence, la question de l'accidentologie est une de nos priorités. La gestion de ces enquêtes-là, la gestion des enquêtes montagne aussi, la prise en compte des familles, la prise en compte de l'annonce. Enfin voilà, notamment, et on a eu récemment des jeunes qui sont décédés dans des accidents. Et donc, c'est forcément des dossiers qu'on prend en compte de façon tout à fait spécifique, en lien avec des unités poly-gendarmerie très habituelles. situer, notamment le PGHM et la CRS Alpes. Mais c'est sûr que la question... Alors, là, je vais plus parler des accidents de la route. Dans les accidents de la route, il y a à la fois la gestion de l'accident une fois qu'il est arrivé, et là, réfléchir à le gérer le plus vite possible, en respect de la famille, etc. Et puis, la prévention nécessaire.
Ça veut dire répression ?
Alors, ça veut dire, bah oui, des gendarmes qui font des contrôles, et vous les voyez d'ailleurs sur les routes. Hein, et avec une préoccupation sur le ressort, notamment sur la vitesse. Parce qu'on a un certain nombre d'accidents qui ne sont pas en lien avec des stupéfiants, qui ne sont pas en lien avec de l'alcool, mais avec une très grande vitesse sur des routes que vous connaissez, qui acceptent difficilement des conduites à risque comme ça. Donc là, il y a, à mon avis, une vraie prévention à faire, mais le groupement de gendarmerie et la direction de la police nationale sont parfaitement au fait. Mais voilà, je pense que la conséquence, ça sera plus de contrôle pour empêcher en amont les catastrophes.
Il y a une spécificité dont vous n'avez pas parlé, c'est qu'on a un territoire qui est transfrontalier, à la limite avec l'Italie. On parle énormément du côté de Briançon, de Montgenèvre, de la migration, du phénomène migratoire et de ces passeurs qui parviennent encore à faire venir des personnes dans des conditions parfois déplorables.
Oui. Tout à fait. Et nous, c'est une de nos préoccupations. Vous avez raison. Du point de vue du parquet de Gap, la question de la frontière, c'est d'abord la question des passeurs et de l'infraction commise par ces passeurs, et donc de la répression. Et là encore, moi, je m'inscris dans ce qui a été fait avant moi, c'est-à-dire une politique de zéro tolérance par rapport aux passeurs qui se font de l'argent sur la misère et qui viennent complexifier encore la gestion de ce territoire. Et puis avec aussi un autre corollaire, c'est tous les migrants qui prennent des risques inconsidérés et qui vont parfois trouver la mort à 2000 mètres, 3000 mètres d'altitude. Et là aussi, c'est des drames humains qu'on a à gérer, nous, du point de vue du parquet, et qui sont compliqués et qu'on souhaiterait pouvoir éviter, bien évidemment.
C'est difficile de trouver l'équilibre dans ce dossier entre à la fois un traitement... je ne parle pas des passeurs, je parle vraiment des exilés. À la fois un traitement humain, c'est-à-dire d'un drame migratoire, et en même temps le respect notamment des conventions européennes, de la directive Dublin 3, etc.
C'est sûr. Après, là, je vais rester dans mon champ à moi. C'est sûr que c'est un espace où beaucoup de choses s'entrechoquent, beaucoup de valeurs s'entrechoquent. Et je crois que le rôle des institutions administratives et judiciaires, c'est de faire en sorte que ça soit... le moins compliqué possible et que quand il y a, de mon point de vue, là c'est vraiment du point de vue parquet, quand il y a une transgression de la loi, il y a une intervention et qu'on évite ces drames humains qui mettent aussi en danger les services de police et de gendarmerie qui interviennent, il y a ça aussi. Moi je suis très soucieuse du service de la police aux frontières de Montgenèvre, qui est un service qui est particulièrement sollicité, qui font un métier très difficile parce qu'il est vraiment, c'est exactement ce que vous disiez, sont à la fois dans l'application de la loi, c'est ce qu'on leur demande bien évidemment, et en même temps au cœur de drames humains, et puis doivent concrètement gérer des arrivées massives dans des locaux qui ne sont pas forcément adaptés, etc. Donc c'est un point d'attention, c'est une unité dans laquelle je me rends très régulièrement avec mon équipe du parquet, et voilà, c'est encore une fois l'occasion ici de rendre hommage au travail qui est fait par cette unité et qui le fait avec le plus d'humanité possible.
Parlons, et dernier point, ce sera celui des stupéfiants avec cette opération PlaceNet qui a été menée du côté de Briançon. Briançon, c'est quoi ? C'est le point noir au niveau du trafic de stupéfiants ?
Alors, surtout pas de stigmatisation, parce qu'il y a en fait un énorme travail qui a été fait au niveau des Toulousaines, bien avant PlaceNet, et PlaceNet est presque un peu l'aboutissement de tout ce travail qui a été fait, qui est à la fois un travail de répression, et il y a eu des opérations et des interpellations très régulières. Il y a aussi un travail très important qui a été fait de rénovation urbaine, et puis de simplification de l'espace avec des travées qui ont été ouvertes, etc., pour compliquer le travail des revendeurs. Et donc, c'est une zone qui a été reprise par le droit et par la société avec un énorme travail de la mairie, de la sous-préfecture et de la police de Briançon. Donc, PlaceNet venait apporter presque un coup complémentaire. Alors après, c'est toujours une zone complexe, c'est toujours une zone où il y a des difficultés sociales aussi et de la délinquance, mais moi je veux surtout pas que PlaceNet dise que le problème de stupéfiants dans les Hautes-Alpes, c'est les Toulousaines. Un énorme travail a été fait. En réalité, on a quand même des trafics de stupéfiants qui sont assez diffus, avec maintenant des nouvelles façons d'acheter du stupéfiant.
On parle de micro-trafic.
On parle de micro-trafic, alors peut-être, moi je veux dire plutôt des trafics locaux, avec des fournisseurs qui se déplacent en scooter, avec des communications qui se font sur Internet, sur Snapchat, sur Telegram, donc en plus sur des réseaux qui sont difficiles pour nous à capter. C'est de plus en plus difficile. Après, les enquêteurs s'adaptent aussi, notamment avec des enquêtes sous pseudonyme, etc. Et ce qui est sûr, et c'est ce qui est fait par le groupement de gendarmerie et par la direction interdépartementale de la police nationale, c'est que nous ici, alors il y a eu l'opération Place Nette, mais on fait aussi beaucoup d'opérations ponctuelles sur des réseaux avec un ou deux revendeurs, des acheteurs, et on va mener des opérations sur un ou deux mois. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière d'ailleurs à Gap autour d'un hôtel. Des écoutes, des observations, des constatations et puis une opération d'interpellation qui est menée.
On n'est plus dans l'interpellation, j'allais dire, dans la rue où quelqu'un fume du cannabis, on va l'interpeller. Là, maintenant, c'est beaucoup plus sur la durée.
L'idée, c'est d'arriver à interpeller ceux qui gagnent de l'argent avec ce trafic et ceux qui irriguent le territoire avec ce trafic.
Et les consommateurs.
Et les consommateurs, on les interpelle. Il y a, alors, pour eux, il y a plusieurs possibilités. Il peut y avoir des amendes forfaitaires ou, à notre niveau, des alternatives aux poursuites s'ils ne sont pas connus par ailleurs. Par exemple, des alternatives où on les oriente vers des structures XAPA, etc., de traitement de la dépendance. Mais c'est vrai que dans les trafics qui existent sous notre sort, l'idée, c'est vraiment de travailler quelques mois sur une équipe et puis d'organiser une opération. La semaine dernière, on a eu comme ça quatre interpellations, une comparaison immédiate, deux personnes qui ont fait l'objet d'autres types de poursuites, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On a ici une capacité à être fin dans notre réponse pénale, et par exemple la semaine dernière, ils n'ont pas tous eu la même réponse pénale, parce qu'il y avait le haut, celui qui organisait, il y avait des plus petites mains, il y avait quelqu'un qui blanchissait, et donc grâce à l'agilité, on va dire, de notre parquet et puis la rapidité des poursuites, eh bien, on peut s'adapter au profil de chacun.
J'allais dire, en fait, il n'y a pas un seul profil aujourd'hui de revendeur. Tout le monde est concerné, c'est toutes les classes sociales.
Il n'y a pas un seul profil, et puis il y a des revendeurs qui ne consomment pas, il y a des revendeurs qui revendent pour leur propre consommation, il y a des gens qui sont installés là-dedans depuis très longtemps, qui vivent de ça, il y en a d'autres pour qui c'est un complément. Donc c'est une réalité assez multiforme. Ce qui est sûr, c'est que sur le territoire, et là vous parliez de la différence entre les Bouches-du-Rhône par exemple, qui est un territoire où j'ai pu exercer, et les Hautes-Alpes, c'est qu'il n'y a pas de zone de non-droit dans les Hautes-Alpes. La police et la gendarmerie vont partout, contrôlent partout, et il n'y a pas ces quartiers où la revente se fait aux yeux de tous, avec les tarifs qui sont affichés. Et ça, on ne peut que s'en réjouir, évidemment, et notre travail, c'est que ça reste comme ça, et qu'on continue cette lutte, et que surtout, ça ne dérive pas.
Merci beaucoup, Marion Lozac-Meur, de nous avoir accueillis ce matin.
Merci à vous pour cette invitation.
Procureur du parquet de Gap.